qui compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les hyènes.
Come on, guy. Who'll be sweet with me?
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Samedi, intérieur jour, un studio de radio dans Paris, deux hommes, une femme, trois personnages derrière un micro, quelles sont leurs intentions? Que va-t-on leur faire dire? Comment va-t-on les filmer? C'est tout l'enjeu du cinéma dans un espace réduit, pour ne pas dire confiné, et c'est le thème de notre film ce matin. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Oui, il en faut des trésors d'imagination pour raconter des histoires dans des espaces limités, et c'est pour ça que nous l'avons invité. Bonjour Thomas Bidguin.
Ouais, bonjour Christine, bonjour Laurent. Bonjour,
scénariste et réalisateur, ensemble nous allons parcourir votre best-of de films confinés par la loi, par amour, par accident ou par nécessité, de Lifeboat à The Truman Show, ou comment raconter et filmer l'humain de façon encore plus intense. Enfin, et parce que le cinéma existe aussi en dehors des salles, des conseils avisés de livres et de DVD. Un studio, trois personnages, la projection peut commencer.
Allez, viens là, toi.
T'as quel âge?
19 ans, pourquoi?
Tu me regardes pas quand tu parles, tu regardes le mec qui est à côté.
Oh, c'est moi que tu regardes.
On m'a dit que t'avais pris 6 ans. Putain, ça va être long, 6 ans. Hein. T'as déjà eu des problèmes dans la cour, tu crois que tu vas tenir longtemps sans protection?
Je tiendrai le temps qu'il faudra. Vous voulez quoi, là? Oh.
Te protéger. Tu parles arabe?
Ouais, je parle arabe.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches. Tu le connais? Qu'est-ce qu'il voulait?
Je sais pas, il voulait parler. Pourquoi?
Ne regarde pas, je te dis. Parce que je veux que tu continues. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi?
Parce que tu veux le tuer.
Face à face, Nils Arestrup, Tarraïm, un prophète de Jacques Audiard, co-scénarisé par vous, Thomas Bidguin. Un prophète, la prison, un huis clos, donc, comme moteur fictionnel, mais avant tout un récit d'apprentissage à l'intérieur de ce lieu, Thomas.
Ben, oui, bien sûr, mais c'est parce que c'est avant tout un film de genre, et les films de genre, comme de toute façon, réduisent les enjeux à ça va être des questions d'argent, de territoire, de violence, de force brute. Et donc, voilà, et la prison permet ça, permet aussi de réduire le territoire, et donc on va être obligé de se croiser, on va être tout le temps sous le regard les uns des autres, voilà, et ça va faire de notre
personnage d'un lieu codé, où les codes sont déjà préétablis.
Oui, et un peu trop décrit par le cinéma, notamment le cinéma américain, non?
Bah oui, du coup, c'était ça.
Il y a de l'antériorité à gérer.
Oui, mais c'est la chance aussi, c'est la chance qu'on a de faire du cinéma en Europe, où les trucs sont pas les choses sont pas représentées.
Exactement.
C'est-à-dire, quand vous faites un film en prison, de prison aux États-Unis, on l'a déjà vu, quoi. Alors que vous faites un film en prison en France, et ben personne n'avait vu, curieusement.
Et surtout,
pas depuis très longtemps.
Ouais, fabriquer un héros à partir de gens qu'on connaît pas, en fait, ce jeune Tarraïm, c'est ça, c'est un nouveau héros dans le cinéma français.
Bah oui, c'était l'idée de Jacques, c'était de faire le film d'après, parce qu'il y avait beaucoup de films avec des gens qui étaient issus de l'immigration, de deuxième génération, mais qui étaient toujours confrontés à des problèmes sociaux, à des problèmes. Et là, c'était faire entrer dans le genre.
Oh. Dans une prison, Thomas Bidguin, l'espace peut se réduire à une cellule, cinq hommes à l'intérieur, c'est le trou de Jacques Becker, 1960.
Et dedans, qu'est-ce qui se passe?
Rien, pourquoi?
Je sais pas. C'est une impression que j'ai.
Pendant que t'étais au colis, on a parlé de toi.
Hein?
Écoute, on est des types habitués à vivre ensemble, à quatre. Là-dessus, toi, tu arrives. Alors on parle de toi, forcément.
Pardon. Manu avait quelque chose à me dire. J'aimerais bien qu'il continue.
Ouais. Tu ne nous connais pas et on ne te connaît pas non plus.
C'est juste.
Mais comme nouveau, on t'a adopté tout de suite, ou presque.
Vous êtes bien aimable.
Mais sans savoir, t'es tombé sur une cellule un peu spéciale. On n'est pas tous là pour la même raison. Mais quand on passera aux assises, le plus vénard ramassera 10 ans minimum.
Comme tu vois, mes amis et moi, nous risquons beaucoup.
En effet.
Alors nous, on voudrait bien savoir ce que tu risques toi, Gaspard.
Je suis accusé d'une tentative de meurtre, avec préméditation.
Ça peut lui valoir 10 ans, ça. Facile.
Tu permets, oui. Qu'est-ce qui t'accuse?
Ma femme.
Bon, c'est dingue, un film entier dans une cellule, le trou. Alors, ils veulent s'évader, certes, mais encore là, pareil, la prison est un prétexte pour en fait parler de solidarité, d'amitié et de confiance.
Exactement.
Entre cinq hommes.
Mais c'est parce que c'est un truc, c'est le film de prison, mais il y a un sous-genre à l'intérieur du film de prison qui est le film d'évasion.
Oui, bien sûr.
Et donc là, c'est vraiment ça, et c'est souvent ça les films d'enfermement, c'est comment en sortir. Voilà, dans Un prophète, il fait des voyages, il est en permission, il va à Marseille, il fait des trucs. Là, c'est comment est-ce qu'on va réussir à sortir de ces 9 mètres carrés. Et effectivement, ça va parler d'humanité, ça va parler de confiance.
De
beaucoup,
trahison.
Beaucoup, mais après, là où Becker est formidable, c'est qu'il prend la patience de filmer les gestes. Ça, c'est un film sur les gestes formidables.
C'est-à-dire qu'on
va fabriquer une clé. Et là, on va voir le temps que ça met. Il y a un truc du temps. Et puis d'ailleurs, on le voit, ça commence vraiment leur plan d'évasion quand ils arrivent à fabriquer, premier truc, un sablier. Et donc, c'est vraiment un film sur le temps. Il nous l'annonce là. Et puis, voilà, on va prendre le temps de faire une clé, de faire des allers-retours,
des gestes tours de regard. Des regards, Thomas.
Absolument. Ouais. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc très bressonien. C'est le dernier film de Becker qui a fait quand même, je sais pas quoi, Casque d'or, Goupil, Main Rouge. Et c'est en 60. Et il trouve là une espèce d'épure. Vraiment, c'est bressonien. Et c'est marrant parce que c'est bressonien et en même temps, parce que c'est écrit par Giovanni, qui est l'ordure qu'on sait. Et ben, du coup, il y a un truc qui parle un peu comme dans le Grisby, quoi.
C'est ça.
Et en même temps, c'est
un condamné à mort, c'est jamais plus que Grisby.
Exactement, il y a un truc comme ça.
Le temps, c'est l'obsession de Chuck Nolan, de Tom Hanks, dans Seul au monde de Robert Zemeckis. Aïe, 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 ce film. Là. Chuck, un cadre de FedEx, obsédé justement par le temps, la rentabilité et les performances, doit à la veille de Noël assurer une livraison par avion en Malaisie et devra retrouver sa fiancée plus tard pour le nouvel an. Tempête. Crash. Agrippé au radeau de sauvetage, Chuck s'échoue sur une île déserte sur laquelle il survivra 4 ans. Est-ce qui est dingue, 4 ans. Donc, résumé, dans une heure de film, sans musique, c'est très rare dans un film américain. Et juste un truc assez drôle, Thomas Bidguin, le scénariste de ce film, William Broyles, a joué les échoués volontaires pendant quelques temps au large du Mexique.
Ah, je savais pas.
Ce qui est étonnant parce que du coup, tout ce que fait Tom Hanks paraît juste. C'est-à-dire que tout ce qu'il fait, on le ferait sur l'île.
Ouais. Non, c'est formidable. Mais Broyles, il a écrit un tas de trucs. Il a écrit aussi Apollo 13.
Oui.
Il a écrit Le Planète des Singes, là, le reboot de Rise of the Planet of the Apes. Là. Et c'est curieux. Mais ils ont mis il y a un an, ils ont interrompu le tournage pendant un an pour faire maigrir Hanks et tout ça.
Il a tourné un film entre-temps, en plus, Zemeckis. Ah, ouais. C'est quoi, apparence. Ouais.
Mais ce qui est fou, c'est que... Et du coup, on le voit, parce que ce qui est un truc moment fou, il y a l'accident d'avion. Mais ça, Zemeckis, vraiment, c'est le roi des accidents d'avion. On peut voir. Non, Flight, c'est incroyable ce qu'il fait. Et donc, mais l'accident là est vraiment génial. Et puis, il y a un autre moment fou de ce film, c'est l'ellipse. C'est-à-dire qu'il y a une ellipse. Et là, il a mal aux dents. Il a un patin à glace et il essaye de faire le dentiste avec son patin à glace. Et puis, cut.
Et avant, il découvre le feu. On écoute.
There you go. Here you go. It's a signal fire. The medium shower! Fireflies, go, go! You're free, you're free! Yeah! Yes! Look what I have created! I have made fire! I have made fire!
Seul au monde, Zemeckis. Il y a une idée géniale, Thomas Bidguin, c'est de créer un autre personnage, comme un vendredi. Et c'est un ballon, et c'est Wilson. Mais ça, c'est bien. C'est pour éviter presque la schizophrénie du personnage, et pour vraiment la matérialiser. Et même quand Wilson s'en va, le ballon à la fin, c'est déchirant, c'est-à-dire, c'est devenu un vrai personnage.
Non, il arrive à faire ça, il arrive à faire un vrai personnage de ce ballon. Et il y a un truc de design qui est magnifique, quand même, cette main en sang qui va faire son visage, avec les deux yeux au milieu. C'est un truc magique, on s'en souviendra toujours. Ça lui permet aussi, parce qu'il n'y a pas de musique, mais ça lui permet aussi de faire des dialogues, ce qui est quand même pratique dans les films des Robinsonades.
Ouais.
Voilà. si on veut éviter la voix off, on a intérêt à avoir un Wilson. Et donc voilà, mais c'est vraiment un film formidable. C'est le deuxième film qu'ils font ensemble, Zemeckis et Hanks. Ils se connaissent vraiment bien. Ils ont fait Forrest Gump. Et puis Forrest Gump qui avait donné un Oscar. Il avait gagné deux fois Tom Hanks. Il avait fait Philadelphia en 93, Forrest Gump en 94. Deux années de suite, il gagne l'Oscar.
À signaler que Wilson, j'adore ce détail, c'est aussi le nom de famille de la femme de Tom Hanks. Donc c'est pour dire que sa femme l'accompagnait sur l'île.
Et vous connaissez pas l'histoire, quand il gagne l'Oscar, Tom Hanks,
non.
Il remercie son prof. Il remercie son prof de français, dans du petit village où il a grandi. Et il dit, je remercie mon prof qui est un mec formidable et qui est gay. C'est pour Philadelphia. Et là, le gars est en train de regarder avec sa femme. Et ils ont fait un film qui s'appelle In and Out de Kevin Kline, qui est tiré de cette anecdote-là.
Incroyable.
Ouais, ça vient de là. Il remercie son prof qui dit, ah, qui est formidable et qui est gay. Et là, waouh.
Non, un fantastique acteur, Tom Hanks, c'est le retour après. Enfin bref, film merveilleux sur le monde Zemeckis. Alors, lui, il s'est pas retrouvé dans l'espace par accident, sur la Lune, mais pour une mission de 3 ans, où il gère l'extraction de l'hélium-3, seule solution à la crise de l'énergie sur Terre. C'est le thème de ce film Moon, le premier réalisé par Duncan Jones et le fils de David Bowie, avec l'immense Sam Rockwell. On écoute un extrait.
Sam, nous avons reçu un nouveau message de la Terre.
Bonjour Sam, comment ça va? Vous vous sentez mieux? Vous vous êtes reposé? Bah, j'espère, vous vous la coulez douce là-haut, mon salaud. Profitez-en tant que ça dure. On a une bonne nouvelle. Le programme Jupiter a été mis en suspens pour le moment. On a donc quelques paires de bras disponibles. On va pouvoir vous envoyer une unité de secours plus tôt que prévu. On pense qu'elle sera à même de vous rejoindre dans approximativement 14 heures. Allez-y, vous pouvez sauter de joie. Vous allez bientôt lâcher le boulot. En attendant, ne bougez pas de la base. Reposez-vous. Oui, restez tranquille, Sam. Terminé.
Ils envoient une unité de secours. Pourquoi ils envoient une unité de secours ? Pour réparer la moissonneuse, il croit sans doute que je suis incapable de le faire. Je rentrais chez moi. C'est à moi de rentrer. Quoi? C'est vraiment ce que tu penses? Ouais, j'ai le droit, j'avais un contrat, maintenant je rentre.
Thomas Bilguin, c'est drôle parce que si on évoque l'espace et l'espace réduit, moi on pensait que vous nous parleriez de 2001, de Solaris, de Gravity, etc. Non, Moon, de Duncan Jones, qui d'ailleurs n'est jamais sorti en salle en France.
Non, mais il y a un truc super dans Moon, c'est la modestie du truc. C'est un premier film, c'est un film pas cher. C'est un film qui a coûté 3 ou 4 millions, et enfin pour un premier film, et un film de science-fiction, c'est vraiment pas cher. Il fait ça dans des petits décors, et c'est ça qui est super. C'est que c'est un film anglais, c'est pas un film américain. D'abord, c'est complètement fou que le fils de David Bowie fasse un premier film qui est comme Major Tom, un mec tout seul. Un mec tout seul dans l'espace. Et puis il y a cette idée-là, et je trouve ça formidable, parce que on voit bien que c'est pas une histoire de moyens de faire des films de science-fiction. C'est curieux, c'est une histoire d'idées, de trucs. Le film est remarquablement bien écrit. Oui. C'est marrant parce qu'en France, il y a peu de films de science-fiction. Alors maintenant, on commence à faire un peu des films dans l'espace ou des trucs comme ça, mais c'est bizarre. C'est toujours des histoires qui sont laissées aux anglo-saxons. Oui. Il y a vraiment un territoire là, et justement, c'est un modèle. Ce truc
pourtant, on a commencé avec Le Voyage dans la Lune.
Ah ben voilà.
Ouais, oui, monsieur. Quand même.
Mais vous vous en souvenez d'ailleurs,
c'était un film
critique, formidable à l'époque. Et donc Sam Rockwell est génial. Et ce qui est super, c'est que ça commence un peu comme 2001, puis après on dirait un épisode de la Twilight Zone, et puis en fait ça part dans autre chose. On est vraiment surpris. C'est vraiment bien écrit.
C'est un espace mental.
Absolument. On a un personnage tout seul. Alors il parle, lui, il a son Wilson, c'est le robot.
Ou son HAL 9000.
Oui, ou son HAL
9000.
Ouais.
Il s'appelle Gertie.
Alors, il est joué par Kevin Spacey.
C'est un peu le gardien du lieu, ça sera aussi peut-être le traître. Ensuite, il y a Sam qui se multiplie donc en clone, le messager. C'est une vraie tragédie grecque, en fait, ce film.
Ben, c'est comme souvent les films sur les films qui sont dans des espaces clos. Ça va être une méditation sur l'homme.
Qui n'en est pas
place.
Un clos. C'est ça l'avantage de l'univers. C'est qu'en même temps, ça n'est pas du tout un espace clos.
Exactement. Mais là, il est quand même dans la base. Oui, et dès qu'il sort, il risque de nous mourir.
Et puis personne ne vous entend crier.
Il y a un truc, c'est un peu comme The Martian. Ça va être une réflexion sur la place de l'homme dans l'espace, dans l'univers. Et c'est en ça que c'est pas mal de revoir ces films-là, surtout maintenant, en truc de confinement. Ça pose vraiment, en général, les gars sont obligés d'amener ça, d'élever le débat et de poser des questions un petit peu larges.
C'est très mélancolique, ce film, en même temps.
Très, mais c'est comme la chanson de son père. C'est vraiment ça. Hein. C'est Can You Hear Me, Major Tom? C'est un mec perdu dans l'espace qui va s'interroger sur pourquoi il flotte dans cette boîte de conserve. C'est vraiment un peu cette idée. C'est curieux, ce truc-là.
Lui, sur Terre, s'est isolé du monde dans son vieil appartement romain, rempli de livres d'art, de tableaux et de souvenirs, un intellectuel humaniste qui refuse le contact avec l'extérieur et qui sera dérangé par l'intrusion d'une étrange tribu, une comtesse, sa fille, le fiancé de cette dernière et un gigolo, Conrad. Violence et passion, l'avant-dernier film de Luca Visconti, avec Burt Lancaster, Helmut Berger. Vraiment, ça, c'était très important pour vous de sélectionner ce film dans ce thème-là, puisque ça se passe donc dans un immeuble sur deux étages, deux appartements, et on n'en sort pas.
On n'en sort pas, et c'est un film, c'est dans la fin de Visconti, il est en 74, il a eu une attaque en 72, donc il peut plus tourner en extérieur, et c'est son scénariste qui a l'idée de faire de décrire pour lui un huis clos. Mais il retrouve Burt Lancaster, il a même plus, les assurances veulent pas assurer le film, et donc c'est Burt Lancaster qui est obligé de dire que si il arrive quelque chose à Visconti, c'est lui qui finira le film. Donc c'est vraiment Burt qui pousse ce truc. Je dis Burt comme si c'était mon copain Burt. Mais c'est mon acteur préféré. J'adore Burt Lancaster. Ouais. Et il est dans ce film. Il a 60 ans. Et on dirait qu'il en a 75. Oui. Il imite Visconti. Il y a un truc formidable. Et puis là, il a découverte. Et là encore, c'est un truc sur l'humanité. C'est encore un truc sur cet homme qui est obsédé par les petites peintures, ces petits portraits de famille du 18e.
Qui regarde à la loupe.
D'ailleurs, le titre anglais, enfin, en français, ça s'appelle Violence et Passion. Le titre anglais, c'est The Conversation Piece. C'est comme ça qu'on appelle ces petits tableaux.
Oui.
Le titre italien étant Gruppo di Famiglia in Interno.
Oui, à l'intérieur.
Mais The Conversation Piece, c'est vraiment un joli truc. Et ce gars-là qui se retrouve, c'est isolé du monde, isolé de la société.
Cet homme magnifique, complètement à l'ancienne.
Et qui s'intéresse au travail des hommes, mais plus du tout aux hommes.
Non.
Et ben là, il va voir arriver ces gens d'une autre génération, d'un nouveau monde, qui sont des sauvages civilisés. Et ça va bouleverser. Et il y a cette idée d'une famille recomposée, là.
Oui.
Une vraie famille.
Justement.
Avec le bordel de la famille, pas comme dans les tableaux où tout était bien arrangé.
Exactement. Et justement, la fille de cette famille va l'interroger, lui.
Pauvre professeur, il est à moitié endormi. Nous partons tout de suite. Voyez-vous, ce n'est qu'un jeu que nous jouons là. Rien de bien terrible là-dedans. Jurez ? Enfin quoi, vous aussi, vous avez été jeune. Vous n'étiez pas comme nous ?
Non. Absolument pas.
Dommage, vous avez loupé quelque chose. Vous avez bien dû vous amuser aussi. Vous étiez riche, vous étiez beau, qu'avez-vous fait ?
Ce que j'ai fait, j'ai étudié, j'ai voyagé, j'ai fait la guerre, je me suis marié. Ça a été un échec. Et puis quand j'ai trouvé le temps de regarder autour de moi, j'ai découvert que je me trouvais parmi des gens avec qui je n'avais rien en commun.
N'exagérez pas, professeur. On n'est pas différents à ce point.
Non, il a raison. Ne l'oublions pas. La société est ce qu'elle est. La faute en est.
Oh, Conrad, je t'en prie, arrête tes conneries, tu veux bien ? Je vais en savoir davantage sur le professeur. Sur sa vie privée, son passé, son présent.
Le présent ? À présent, je suis un vieil homme.
Oh, professeur, arrêtez votre frein sur la vieillesse. Vous oubliez toujours que vous êtes un homme très attirant. C'est ce que je ressens, en tout cas.
M'imaginez-vous dans la peau d'un de ces personnages d'opéra bouffe ? Le barbon qu'on raille et qu'on bafoue ? La seule histoire d'amour qui convient à un homme comme moi est celle du roi Lear. L'amour d'un père pour ses enfants.
Donc c'est entre les anciens et les modernes, Violence et Passion. Et ça annonce, je trouve aussi, l'arrivisme du berlusconisme, un petit peu cette famille obsédée par l'argent.
Oui, on pense bien qu'on a l'impression que la femme arrive, veut louer l'appartement du dessus. Si. On comprend que son mari est facho.
Ouais.
Il y a un truc comme ça d'un retour de l'extrême droite. Elle a cet amant qui est Helmut Berger, qui est complètement fou. Et effectivement, ça annonce... C'est ce truc-là, on peut s'enfermer dans la beauté et à un moment, la vulgarité vous rattrape. Mais la vulgarité, c'est la vie. Et donc, c'est ce truc-là. Et Visconti est exactement là. Et puis, lui qui a fait des six grandes fresques, Senso, enfin, je sais pas quoi, tous les damnés, les trucs. Et bien sûr, le Guépard. Et là, il se retrouve dans un terrain de jeu si petit. Et son truc, ça va être l'émotion. Et il est dans l'émotion, mais tout le temps. C'est vraiment un film très très émouvant et Burt Lancaster, jamais aussi fin, une finesse de jeu qui est vraiment impressionnante.
Avec l'homosexualité latente de son personnage, bien sûr. Alors, lui a choisi une autre forme d'isolement en mer, sur un voilier. Ah. Un voyage en solitaire dans l'océan Indien. Un homme découvre à son réveil que la coque de son voilier, on entend le son, a été percée lors d'une collision avec un conteneur. Lui, c'est Robert Redford. Le film s'appelle All Is Lost de J.C. Chandor. Pas de dialogue, un scénario minimaliste, pas de dialogue. Et pourtant, au début, une lettre qu'il adresse à ses proches.
Je suis désolé. Je sais, ça n'a plus beaucoup d'importance. Mais je suis désolé. J'ai essayé. Vous m'accorderez tous que j'ai essayé. D'être intègre. D'être fort. D'être attentionné. D'aimer. D'être juste. Mais je ne l'étais pas. Et je sais que vous le saviez, chacun à votre manière. J'en suis désolé. Tout est perdu ici. Sauf mon âme et mon corps, du moins, ce qu'il en reste. Et une demi-journée de vivre. J'ai lutté jusqu'à la fin. J'ignore si cela change quoi que ce soit, mais sachez que je l'ai fait. J'ai toujours voulu le meilleur pour vous tous.
On lise Lost, fallait le faire, hein, 1h40, à part cette lettre de départ. Un tout petit travail pour le scénariste.
Il n'y a pas de Wilson dans celui-là.
Puis en plus, il n'y a pas les dialogues. Je veux dire, le scénariste doit imaginer quand même toutes les situations, tout ce qui va arriver au protagoniste.
C'est un métier, madame.
Mais oui.
qu'est-ce que vous voulez dire?
Non, mais c'est vrai que c'est en plus, c'est haletant parce qu'il se passe plein de choses. Il passe son temps à réparer des choses.
Et c'est ça qui est formidable, c'est que c'est un film de on voit l'opiniâtreté de ce type, qui c'est une allégorie de la mort, et donc c'est un type qui va lutter contre la mort, qui revient. Et c'est donc ça devient un film d'aventure, vraiment, mais lent. Parce que il joue son âge, Redford, et donc il va se lever. Oh, on entend ses genoux qui grincent. Enfin, il y a un truc. Mais il y a une telle force, tel truc, telle opiniâtreté que vraiment, c'est formidable. Moi, j'adore. J'aime beaucoup ce film. Et J.C. Chandler avait fait juste avant Margin Call, qui est aussi un film. Notamment, comment il arrive à raconter la chute de Lehman Brothers depuis juste un bureau, entre 5h de l'après-midi et 5h du matin. Le lendemain, il y a quelque chose de formidable.
Alors, associé à ça, parce que vous voulez vraiment en parler, c'est très important, c'est Lifeboat de Hitchcock.
Ah ouais, voilà, moi c'est un film que j'adore.
En 1956, un navire américain est coulé, les survivants gagnent un canot de sauvetage, et c'est un huis clos.
C'est un huis clos en mer, et puis là, on sauve les gens, les rescapés du bateau. Ils ont été coulés par un sous-marin qui a lui-même été coulé. Et donc, le dernier qu'on sauve, le gars dit « Dankeschön ».
Oui.
Et là, waouh. Et en fait, petit à petit, on va s'apercevoir que c'était le capitaine du bateau qui les a coulés. Et c'est le seul qui sait comment... Ils sont sur ce canot, ils ont des rames, et c'est tout, et très peu à bois. C'est le seul qui sait où on doit aller, qui sait s'orienter, qui connaît la mer. Et donc, ils vont se retrouver à la merci de ce type sur ce canot.
John Steinbeck, quand même.
Et même Hitchcock est dans le canot.
Même Hitchcock est, comment on fait pour apparaître quand on est dans le canot. Il y a Tallulah Bankhead qui est formidable. Il y a beaucoup d'anecdotes sur Tallulah Bankhead et notamment sur le tournage de Lifeboat, mais je ne rentrerai pas là-dedans.
Oui, j'ai cru, j'ai vu.
Et c'est l'œuvre de guerre d'Hitchcock. Et comme c'est un truc tellement bizarre, vraiment curieux comme œuvre de guerre, alors que tout le monde faisait héros dans le Pacifique, il fallait voir les Raoul Walsh et les trucs. Lui, il fait un truc comme ça, tellement en demi-teinte, un truc. C'est vraiment curieux, donc on la balaye sous le tapis, mais c'est un film formidable, vraiment très bien réalisé, parce que les idées de mise en scène à l'intérieur de ça, ils n'arrêtent pas de se passer des trucs. On est sur ce canot, toutes les strates de la société sont présentées, il y a un milliardaire, une journaliste, un type des abattoirs de Chicago, et puis au milieu, Hans. Et lui, voilà. Et lui, il a la solution ou il est le problème.
Hitchcock a dit « Je voulais prouver que la plupart des films sont tournés en gros plan avec ce film-là. » Il l'a bien prouvé. Sur le bateau, alors, il y a Titanic, là, c'est un huis clos qui a coûté très très cher. Et puis, il y a Calme Blanc. On voulait s'arrêter un petit peu sur Calme Blanc.
Calme Blanc, c'est formidable. C'est la première fois qu'on découvre Nicole Kidman. C'est la première fois. Et quand ça arrive, ce truc, c'est très impressionnant.
Un couple envoyer qui sauve un type qui va se révéler être un dangereux psychopathe, mais avant tout, quand même, ce film, c'est une étude du couple en perdition. Ils ont perdu un enfant.
C'est pour ça qu'ils décident d'aller en mer. Et puis, ils trouvent ce type. Et là, ça va être comment est-ce qu'on sauve le couple, comment on sauve sa vie. Oui. Et ça devient un film de genre vraiment haletant, avec juste un bateau et un suspense.
Ça s'appelle Calme Blanc de Philippe Noyce. Le jour se lève, Marcel Carné. C'est aussi une histoire d'amour déçu, terriblement déçu. Un homme, c'est Gabin, a tué, enfermé, assiégé dans sa chambre. Il évoque les circonstances qui ont fait de lui un meurtrier. Alors il y a les décors de Tronner, il y a cet immeuble énorme dans cette banlieue parisienne. Lui au dernier étage, déjà physiquement, c'est très impressionnant. Le scénario est de Jacques Prévert. Et ce serait, alors c'est très drôle, ce serait le premier film parlant français utilisant les procédés des flashbacks. Et il paraît qu'on prévenait les spectateurs avant, en leur disant attention, quand il se passe ça, ça veut dire
il y a un carton au début du film en fait, qui dit vous allez suivre ce que le héros a vécu auparavant. Il y a un carton.
Exactement, parce que donc on est avec François, cet ouvrier sableur. Il y a un plan dans la sablière qui est fou. Elle arrive là, sa copine avec cette fleur et la fleur va crever. Le fait de s'approcher de la sablière, c'est magnifique. Et donc on va effectivement raconter, c'est toujours la même question, comment est-ce qu'on en sort? Et ben là on va en sortir par les flashbacks, et petit à petit on va comprendre.
Et tout le film est néanmoins enfermé, je trouve. C'est-à-dire que même les scènes d'extérieur, la pollution du huis clos les atteint.
Exactement, et là on est en 39, on est vraiment juste avant la guerre, il tourne en mai ou juin 39, et c'est comme si tout ce truc du réalisme poétique français était arrivé là, de tous les tourneurs, Gabin qui fait là depuis la Bandera, depuis 35-36, fait tous les films, tous les grands films, vraiment, que ça soit avec Duvivier, avec Renoir, La Grande Illusion, je sais pas quoi, La Bandera, La Belle Équipe, tout, en 5 ans, il fait tout. Et là, ça va être le coup d'arrêt de ce truc, et on est au max de Tronner, au max d'Arletty, absolument, vraiment la quintessence de ce truc.
Il y a une réplique d'elle que j'adore, Arletty, elle dit... C'est fini le tandem, je reprends mes pédales. Non, mais c'est vraiment.
Non, mais il faut dire qu'il y a Jules Berry. Qui joue Jules Valentin, dresseur de chien. Valentin, dresseur de chien. Et Arletty, qui est sa partenaire. Exactement.
On écoute un extrait justement de Gabin dans sa chambre qui harangue la foule en bas.
Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce que vous guettez tous? Hein?
Qu'est-ce qu'il a? Il est devenu fou?
Il a sauté par la fenêtre?
Qu'est-ce qui se passe? Il est à sa fenêtre! Mais qu'est-ce qui se passe, hein?
Je suis pas une bête curieuse, moi! Qu'est-ce que vous attendez? Ah, vous attendez que je saute? Ah! Un assassin reste intéressant, un assassin! Je suis un assassin! Mais oui, je suis un assassin! Mais les assassins, ça court les rues! Il y en a partout! Partout, tout le monde tue! Tout le monde tue un petit peu seulement! On tue en douceur, alors ça se voit pas! C'est comme la sable, c'est en dedans! Là, en dedans! Alors foutez le camp! Foutez le camp, allez-vous-en! Rentrez chez vous, vous lirez ça dans le journal! Ça sera imprimé, tout sera imprimé! Tout! Et puis vous le lirez, et puis vous le croirez! Parce que dans les journaux, on raconte tout! Hein? Ils sont bien renseignés, les journaux! Allez, foutez le camp, allez, vous allez attraper froid! Je demande rien à personne, moi je veux qu'on foute la paix! La paix!
Oui, Le jour se lève, tourné en été 39.
Été 39.
Incroyable.
Et puis non, et c'est Gabin, il invente ce truc du prolétaire lumineux, et c'est très mal reçu à la sortie.
Très mal. Interdit par Vichy d'ailleurs.
Qui coupe, il y a une scène qui est coupée avec Arletty, il y a des histoires comme ça. Mais surtout, ce qu'on dit, c'est que le prolétaire représenté par Gabin est un dégénéré. Et on voit bien la dégénérescence du prolétariat, et donc du communisme. Et ça devient un film politique. C'est vraiment une très belle œuvre.
Un très grand film.
Un couple en Amérique dans une série de films très célèbres. Vous avez choisi, vous, la version de Bob Rafelson de 1981. C'est Le facteur sonne toujours deux fois. Frank Chambers et Nicholson rencontrent lors de ces pérégrinations, parce qu'on est dans une Amérique en crise quand même, avec des gens qui voyagent beaucoup pour trouver de l'argent. Il rencontre donc Nick Papadakis, qui tient un café station-service au bord de la route. Et quand il voit Cora, c'est Jessica Lange, la très jolie femme de Nick, il accepte le travail qui lui est proposé. C'est la quatrième adaptation. Ce qui est intéressant, c'est que le scénariste est David Mamet, un type qui vient du théâtre. Et c'est une... Vous avez choisi, j'imagine, cette version-là, parce qu'elle est bien plus érotique que les autres.
Elle est fidèle au roman. C'est tiré d'un bouquin de Jim McCain qui écrit Double Indemnité. Arthur en sur la mort, Indemnité. Le film de Billy Wilder, qui fait aussi Mildred Pierce, et donc qui se spécialise dans ça, dans les récits de la Grande Dépression. Et c'est tout le truc du film. Dans le bouquin, Cora est racontée comme étant pas très belle. C'est Lana Turner qui va la jouer dans la première version américaine en 1946. Mais elle n'est pas très belle, mais elle est très attirante pour cet homme. Et ça va être vraiment ce truc-là. Et comment est-ce qu'on sort de cette station-service qui semble être un lieu... Comment est-ce qu'ils vont réussir à vivre leur amour et à vivre ce truc très charnel? Et Raphaël Sun, il fait ça. Les scènes sont incroyables quand on le revoit aujourd'hui.
Ouais.
C'est fou, c'est vraiment un film qui parle de ça, du désir.
On a choisi l'extrait justement où tout twist, c'est-à-dire qu'il s'aime et il décide d'assumer cet amour quitte à, on va voir.
Il nous aurait retrouvés, de toute façon. Tu le connais pas, Franck. Il nous aurait suivis et il nous aurait retrouvés.
Je suis déçu, Cora. Pour moi, c'était pas une coucherie. J'aurais quand même cru qu'il y avait autre chose.
Tu sais pas ce que c'est d'être une femme et d'être piégée dans ce genre de... Tu te rends pas compte.
Il y a toujours une solution. Du moment qu'on est deux.
Oh, je savais plus quoi faire.
Voilà.
Il faut que tu sois tout à moi. Seulement il y avait que nous deux. Seulement, il y a avec toi et moi.
Qu'est-ce que tu racontes?
J'en peux plus de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Mais on pend les gens pour des trucs pareils.
Thomas Bilger, le facteur sonne toujours deux fois, ça veut dire la seconde chance n'existe pas?
Exactement, c'est un film qui va contre le rêve américain.
Ouais.
Et ce qui est merveilleux quand on revoit ce film-là, c'est de voir deux acteurs. C'est vraiment un film de c'est Jessica Lange et Jack Nicholson. Et c'est vraiment, on peut voir ça quand on a deux grands acteurs qui jouent comme ça. On peut voir ça. Ça n'a pas d'âge. C'est un jeu tellement un plaisir juste de les voir jouer ensemble. C'est fou. Et d'ailleurs, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas très loin. Le personnage que joue Nicholson n'est pas très loin du prolo magnifique de Gabin. C'est un personnage
qui est
la vie lui a tapé dessus et voilà, et il va essayer de s'extraire de ce fatum là et voilà.
À propos de grands acteurs, on va vous en faire écouter deux face à face. Lino Ventura et Michel Serrault.
Celui qui a fait ça est forcément passé par la plage. Il est forcément passé par la plage comme le coupable du viol de la petite Geneviève Le Bailly, lui est forcément
écœuré. Pourquoi dites-vous celui qui a fait ça, le coupable, l'assassin? Donnez-lui un nom à ce fantôme. Dites Maître Martineau, notaire, puisque vous en êtes persuadé.
Pas tout à fait, Martineau. Pas tout à fait. C'est pour ça que vous êtes encore là, d'ailleurs.
Je suis là parce que je le veux bien. Parce que l'autre m'a demandé de venir. Maintenant, je m'en vais.
Asseyez-vous, maître. Que vous ne partez pas.
Comment ça, je ne pars pas? Ah oui, mais alors là, attention, mes bons amis, parce que vous n'avez plus tellement de possibilités. Ou c'est la relaxe pure et simple, ou la garde à vue, ou bien vous me déférez au parquet.
Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'aimerais assez la garde à vue.
Garde à vue, un jeu de chat et de la souris où les rapports de force s'inversent et se rééquilibrent totalement. C'est de l'or pour un scénariste, un sujet comme ça. En même temps, c'est compliqué, hein.
C'est compliqué. Vraiment, là, c'est compliqué. Parce qu'en plus, c'est des trucs qu'on a tellement vus, l'interrogatoire. C'est quand même, c'est difficile de réinventer quelque chose. Donc, il faut être très proche des personnages. Et c'est ce qu'arrive à faire Audiard aussi.
Audiard, ouais.
Vraiment. Il y a un truc, le travail de Miller est vraiment génial. Je crois qu'il avait tout complètement storyboardé le film. Mais le travail d'Audiard, c'est un peu la dernière période d'Audiard, c'est Audiard plus sombre.
On avec est Mortelle après, Randonnée, par exemple.
Avec Mortelle
aussi.
Randonnée de Miller, exactement, qu'il écrira avec Jacques.
Oui, mais
donc, voilà, on est dans cette veine-là, juste après son bouquin, là, après la nuit, les jours, là, et toutes les autres. Il y a quelque chose, et toutes les autres nuits, il y a quelque chose d'un peu, voilà, d'un plus sombre, de plus mélancolique chez Audiard. Et là, on le voit, et c'est ce truc, il retrouve Miller est formidable là-dedans. C'est un grand film. C'est d'ailleurs Audiard qui avait acheté les droits du bouquin sans avoir de réalisateur. Et je crois que, alors, à la place de Ventura, à un moment, il était question de montant. Enfin, c'est marrant quand on voit ce truc-là. Mais c'est pareil, hein, deux grands acteurs face à face, ça n'a pas d'âge.
On va terminer, on a très peu de temps, mais on a démarré avec une prison, celle d'un prophète. On l'a conclu avec une autre prison, apparemment dorée, celle de The Truman Show. Peter Weir, 98, depuis sa naissance et à son insu, un homme est filmé pour un docu-soap télévisé. Truman Burbank, c'est Jim Carrey, évolue dans une ville, studio, sa mère, sa femme, ses voisins sont le comédien, mais il l'ignore jusqu'à la chute d'un projecteur. Alors c'est un lieu clos, ça, ville.
Non, c'est évidemment c'est un lieu clos et c'est vraiment fermé. C'est ça qui est magnifique. C'est ce qui est fou, ça va être là, c'est les images que ça produit. Et puis il y a un truc, puis si on n'a pas beaucoup de temps, il faut dire, vous pouvez voir tous les films de Peter Weir.
Exactement.
Voilà, vous pouvez les voir les uns à la suite des autres. Mosquito Coast, Master and Commander, Witness et Fearless, qui est un grand film.
L'année de tous les dangers, vous l'avez dit.
L'année de tous les dangers, Gallipoli. Non, vous les pouvez, on pourrait les faire tous. C'est là, si pour peu que le confinement dure un peu. Vous pouvez tous les faire.
Vous restez avec nous. De toute façon, tous ces films sont remarqués sur notre site. Hein,
absolument,
toutes les références.
Ils sont trouvables assez facilement.
On se retrouve après Rachida. La mort d'une réalisatrice, Nelly Kaplan, qu'on associe souvent à un film, Laurent, la fiancée du pirate, avec Bernadette Lafont, mais Nelly Kaplan, c'est surtout une œuvre libre et audacieuse.
Oui, oui, elle était, et c'est le moins qu'on puisse dire, un esprit libre. On voit fleurir à son propos l'expression anarcho-féministe, et du coup on sourit un peu en lisant de pompeuses nécros qui se terminent par un adieu et merci madame. Pas certain que la mère de la fiancée du pirate n'aurait pas envoyé balader ses turiféraires tardifs, elle qui se sentait toujours prête, je cite, à botter le cul de ceux qui voulaient l'empêcher d'aller de l'avant. Bref, avec Nelly Kaplan, on peut s'épargner la langue de bois jugée plus tôt.
Je me suis cherchée, je me suis trouvée. J'ai écrit des romans. Je n'ai pas accepté, on ne veut pas que je fasse des films, j'écrirai autre chose. Seuls sont les indomptés, mais il ne faut pas se laisser dompter. Donc, je n'ai jamais baissé les bras. Jamais. Ce n'est pas mérite, ça doit être dans mes gènes. Je pense que peut-être plusieurs générations en avant, quand mes ancêtres couraient dans la steppe pour fuir les Cosaques, parce que les Cosaques n'aimaient pas les Juifs. Donc, oui, je savais qu'il fallait s'échapper des Cosaques, mais ne pas se fuir à soi-même.
Et oui, elle était comme ça, Christine Nelly Kaplan. Russe, argentine et française à la fois. Amie et muse d'André Breton, Abel Gance, Henri Langlois, Philippe Soupeau et Pablo Picasso, entre autres génies. Sa filmographie ne compte au final qu'une quinzaine d'œuvres, dont une majorité de documentaires, sans oublier une vingtaine de scénarios et des livres à l'érotisme suranné. On doit le dire. C'est sa fiancée du pirate, évidemment, qui phagocyte le reste et n'a rien perdu de son charme et de sa verdeur, grâce notamment à Bernadette Lafont, impeccable en sorcière, qui, comme le chant de Barbara, se balance et chacun sera servi, mais c'est elle qui choisit. Être l'auteur d'un film devenu culte, ce n'est pas donné à tout le monde. Qui êtes-vous, fleur exorbitante, au milieu de tous ces crétins, lui avait lancé un jour Philippe Soupeau. Mais vous, qui êtes-vous, lui avait-elle répondu sans se laisser impressionner par l'auteur de Champ Magnétique. On ne saurait mieux résumer cette femme au rire carnassier, au franc-parler redoutable, une sorcière qui brûlait les autres au lieu d'être brûlée.
Ouais, elle était pétillante et drôle, on l'avait rencontrée, ouais. Des idées de films, Laurent, on va commencer par Angèle de Pagnol.
Mais oui, mais il faut toujours revenir à Marcel Pagnol et à son cinéma formidable, avec cette très très belle restauration d'un film tout à fait étonnant, parce que c'est d'après une œuvre de Giono. On y trouve Oran de Mazis face à Fernandel, génial dans le rôle d'un valet de ferme qui rattrape en quelque sorte la fille perdue qui est devenue Oran de Mazis, qui s'est fait faire un enfant à Sodome et Gomorre, c'est-à-dire à Marseille, qui revient dans l'arrière-pays et que son père, évidemment, bannit quasiment à jamais, ou en tout cas maudit. Ce sont les thèmes de Giono, ce sont des tragédies antiques qu'on adore, et il y a une photo merveilleuse, et cette restauration qui est faite, il faut le dire, par le petit-fils de Nicolas Pagnol, qui s'occupe très très bien du patrimoine du grand-père.
Et de Marcel Pagnol,
Petit-fils de Marcel Pagnol, pardonnez-moi, qui s'appelle Nicolas Pagnol, et qui s'occupe dans une très belle collection éditée par CMF de l'ensemble des films de son grand-père, et on est toujours heureux de les retrouver. Le dernier en date, c'est donc Angèle.
Un livre chronique d'un cinéma confiné.
Oui, c'est édité par les Fiches du cinéma. Alors c'est pour l'instant en vente sur leur site. Vous pourrez trouver les coordonnées sur notre site à nous. Et c'est bientôt, on espère, en librairie, quand celle-ci, on les laissera enfin rouvrir. Donc ça s'appelle Chronique du cinéma confiné, 21 mars 2020, début du confinement, jusqu'au 22 juin 2020, réouverture des salles, enfin réouverture provisoire, hélas. Les contributeurs ont eu droit à deux questionnaires, l'un confiné, l'autre déconfiné. Alors on passe de Stéphane de Moustier à Laetitia Doche, Alain Guiraudy, Nadav Lapide, Pierre Salvadori, Nicolas Parizère, entre autres. J'ai adoré ce petit post-it de Thomas Caillé qu'il trouve un jour et qu'il met sur son grand tableau. Quand le confinement a commencé, ma fille Héloïse, avec l'aplomb de ses 8 ans, m'a dit droit dans les yeux: quand on a un film en tête, il faut le faire, c'est tout. Je m'y applique, répond Caillé. Et puis il y a Alex Lutz qui célèbre l'esprit collectif en ces temps de difficultés, en ces temps de confinement. Et il dit: si l'humanité marche, c'est quand même plutôt parce que on était en groupe toujours, parce qu'il y en a un qui un jour a dit: ah tiens Michel, crie, pendant que moi je fais comme ça avec le bâton, normalement ça fera fuir le lion. Moi j'adore le Marcel Néandertal imaginé par Alex Lutz. Voilà.
Deux autres DVD, Canal de Vajda et Le départ de Skolimowski.
Oui, c'est une série de Malavida, le bel éditeur
ouais,
des DVD.
Sacré éditeur
qui s'occupe là, en l'occurrence, plutôt des films de l'Est, en l'occurrence deux réalisateurs polonais extraordinaires. Il y a Canal qui est un film confiné, parce que ça se passe en 1944, et ce sont des résistants polonais écrasés par les soldats allemands qui se réfugient où? Dans les égouts. Vous voyez, comme confinement, on fait pas mieux. C'est le prix du jury en 1957. C'est un premier film à la virtuosité esthétique incroyable. Il y a un livret, il y a des docs, il y a des bonus en pagaille, comme l'autre film, Le départ de Jerzy Skolimowski, autre polonais, Ours d'or en 1967, avec, tenez-vous bien, Jean-Pierre Léo, oui, notre Jean-Pierre Léo, avec là aussi un livret et de très nombreux bonus.
Et sinon, un cadeau, mais un super cadeau pour Thomas Bidguin.
Mais oui, Ariane de Billy Wilder, s'il vous plaît, coffret ultra collector. Alors, Ariane, faut-il le redire,
c'est
la fille d'un détective privé qui s'entiche d'un milliardaire américain absolument macho. Ben elle, c'est Audrey Hepburn, lui, c'est juste Gary Cooper. Et dans le rôle du père, Maurice Chevalier. 1h30 d'anglais par Maurice Chevalier, moi, ça me ravit. Que dire du film? Ben, c'est brillant, c'est vif, c'est enjoué, c'est drôle, c'est mordant, c'est joyeux, c'est touchant. Bref, c'est du champagne à la Billy Wilder dans un Paris de studio hollywoodien. Le coffret, il est signé Carlotta. Il y a énormément de bonus. Il y a un Blu-ray et un DVD, évidemment. Et un, s'il vous plaît, un livret de 160 pages avec notamment beaucoup de textes issus de positifs. C'est un très très beau cadeau à faire. Merci. Ou à se faire.
Vous l'aviez lu, vous avez
oui,
vu ce film,
bien sûr. Oui, mais j'ai vu il y a longtemps, je ne savais pas, c'est difficile à revoir.
Oui,
Ouais, ouais, c'était magnifique. J'ai un livre pour vous. Je vous offre le Odiard Simenon, qui est sorti chez Actes Sud, où il y a trois scénarios, trois adaptations de Simenon par Odiard, qui est vraiment un livre magnifique. Et comme c'est vous toujours qui faites des cadeaux, et ben là, il est pour vous, les copains.
C'est le premier invité qui nous fait un cadeau. Incroyable.
Formidable, c'est Actes Sud et le Lumière.
Absolument. Voilà.
Le sang à la tête, Maigrette en un piège, le président.
C'est des scénarios intégrales, on les a jamais. C'est formidable de faire ça. Il y a un petit mot de Jacques. Début, Jacques Audiard, qui est vraiment chouette. Ouais. Et puis derrière, l'analyse est vraiment très, très réussie.
C'est sorti pendant le Festival Lumière.
Exactement.
C'est vraiment une très, très belle édition.
Et à mon tour, je vous ferai ce cadeau, ce livre. Un livre, un auteur islandais, puisque vous tournez votre prochain film là-bas. Il s'appelle John Kalman Stefansson. C'est un romancier, un poète. Je vous lis juste la quatrième de couve. À vous, le maître des mots. Certains mots sont probablement aptes à changer le monde. Ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous en serre le cœur. Et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes de sauveteurs quand les jours sont contraires. C'est pas beau ça ?
Magnifique. Voilà. Certains mots sont comme ça. Ouais. Je vous dis merci.
Parce que vous allez tourner votre prochain film en Islande.
Oui, je touche un peu de bois quand même. Mais normalement, oui, au printemps, début avril, on tournerait en Islande. Une adaptation d'un livre de Isabelle Autissier qui s'appelle Soudain Seul. Voilà, ça s'appellerait Suddenly, ce sera peut-être en anglais. Et voilà.
C'est parfait avec le thème du jour, en plus.
Exactement, ça prend une modernité là tout à fait depuis le confinement. Ça fait 3 ans que je travaille là-dessus, puis tout d'un coup, on est dans un film de confinement.
Vous l'écrivez seul ?
Non, je l'ai écrit avec Valentine Monteil, qui est une jeune scénariste très prometteuse.
Et sinon, vous écrivez encore pour les autres ?
J'écris, bah oui. J'ai écrit un peu pour Jacques, mais qui vient de tourner un film qu'il a écrit avec d'autres, avec Céline Sciamma et Léa Missius.
Oui.
J'ai écrit pour Jean-Jacques Hano, sachez, qui est formidable, un film sur Notre-Dame. Et puis là, je suis en train d'écrire un film sur Paul Watson pour Jacques.
Celui qui défend les baleines ?
Mais oui, Sea Shepherd, c'est vraiment un truc merveilleux. J'ai écrit ça pour le producteur Jacques Perrin, qui est un homme que j'adore et à qui je dis, si Jacques, si tu nous écoutes, je rentre tout de suite et je me mets au travail.
Il serait temps de rouvrir les salles vu la façon dont vous travaillez les scénaristes, c'est-à-dire vous faites énormément de choses.
C'est une période. Mais nous, vous savez, c'est curieux parce que le confinement, c'est comme si le monde entier s'était aperçu de ce que c'est que la vie de scénariste. On est enfermé à la maison et bienvenue. Bienvenue les gars.
Merci beaucoup Thomas Bigard pour ce cadeau. On vous a confié les clés du générique. Au revoir.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Georges Delerue a écrit les musiques du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Christophe Magère s'est occupé de la préparation. C'est une émission réalisée par Laurent Thomas et Claire Destacan. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas. Et moi, Thomas Bidguin, j'y étais.